Luc, il y a deux événements dans l'actualité judiciaire et policière qui attirent notre attention et pour lesquels on va avoir besoin des lumières de Jean-François Brochu, notre spécialiste en affaires policières, qui est un ancien, d'ailleurs, policier lui-même. D'abord, il y a la police vient de se faire donner une mornifle majeure par un juge dans l'affaire de Jonathan Betté. Oui. Ça, c'est le gars qu'on soupçonne d'avoir tué Cédrica Provencher.
Et qu'on a traqué comme un animal depuis des années. J'espère qu'ils n'ont pas trop fait d'erreurs.
Et ils ont été en perquisition, et le juge vient de dire « Regarde, tout ce que vous avez ramassé, c'est une partie de pêche, oubliez ça. » Et deuxièmement, il y a l'histoire hallucinante du triple meurtre à Yamachiche.
Oui. On va donc... On ne comprend pas trop, je suis content que M. Brochu soit là.
Bonjour, bonjour Jean-François Brochu.
Monsieur, bonjour madame.
Bonjour. Expliquez-moi d'abord, Jonathan Betté, là, ce qui vient... En fait, il est à toute fin pratique acquitté maintenant.
Ouais, j'en ai les deux jambes coupées. J'apprends ça comme vous. On n'a pas beaucoup de détails. Écoutez, semble-t-il qu'au début des interventions, les policiers n'avaient pas de mandat pour faire les premières interventions. Et si c'est le cas, ben donc à cet endroit-là, à ce moment-là, ils auraient accumulé des motifs pour ensuite obtenir des mandats, mais si le juge rejette la première partie, ben tout le reste tombe. Alors, mais là, c'est embryonnaire, on n'a pas vraiment le jugement. On va voir, mais si c'est le cas, c'est majeur, là, ça me décourage un peu.
Pourquoi ça vous décourage?
Ben parce que c'est le genre de choses, M. Lavoie, qu'on peut pas se permettre. Ça fait deux jours que je le dis dans l'affaire dont on va parler dans quelques secondes. La rigueur est de toujours penser qu'à toutes les fois qu'un policier, que les policiers, les enquêteurs, dans des affaires majeures comme celle-là, toutes les moves, passez-moi l'expression, mais toutes les actions policières, on doit toujours penser l'enquêteur, ses supérieurs et le directeur des poursuites criminelles et pénales, parce qu'ils sont aussi impliqués dans cette décision-là, doivent toujours penser à l'admissibilité de la preuve obtenue devant le tribunal, parce que c'est là ultimement que ça va se passer. Et donc, il faut prendre le temps de faire les choses dans les règles de l'art. Et c'est très serré. C'est très serré. On n'a pas les policiers n'ont pas de marge de manœuvre. Et là, il semble qu'ici, on a échappé quelque chose. En tout cas, on va le voir, là. On va pouvoir regarder ça pour des prochains jours.
Nos collègues de la Mauricie confirment que Jonathan Betté est acquitté de toutes les accusations. En fait, il est accusé d'avoir possédé de la pornographie juvénile sur laquelle on était tombé en faisant des perquisitions dans l'espoir d'arriver à le coincer sur la mort de Cédrica Provencher.
Oui, c'est ça. Ben écoutez, en tout cas, cette décision-là sera certainement évaluée par le directeur des poursuites criminelles et pénales, à savoir si on va aller en appel, parce qu'on comprend que c'est la décision d'un juge de la Cour du Québec, mais Cour supérieure, mais il reste une chose, ça fait extrêmement mal et il y aura des questions à l'intérieur de la Sûreté du Québec, très certainement.
Parce qu'ils avaient trouvé des choses sur la pornographie juvénile, mais comme ils avaient obtenu les mandats pour d'autres raisons, ils peuvent pas... Ce que le juge dit, c'est vous êtes allé à la pêche, vous avez pogné du poisson, mais vous aviez pas le droit de le prendre.
Ouais, mais moi, ouais, ce que je lis... Je voulais ajouter une précision, M. Brochu. Moi, je crois comprendre, là, peut-être que j'ai tort, là, qu'il n'y avait pas de pornographie juvénile sur le disque dur. Il y avait des liens menant vers de la pornographie juvénile. C'était une différence quand même marquante.
OK, ben écoutez, je n'ai pas, encore une fois, là, suffisamment d'informations pour aller en profondeur dans ce dossier-là, mais il reste qu'effectivement, si le poisson réussit à se décrocher dans cette affaire-là, c'est un coup majeur, mettons que c'est une claque dans le visage aux enquêteurs de la Sûreté.
Parlons d'Yamachiche, là.
Expliquez-nous ce qui s'est passé à Yamachiche. On est rendu avec trois cadavres.
Oui, ben là, c'est ça. Moi, je peux vous dire que, selon les enquêteurs, il y a un lien à faire. Ils font un lien entre le meurtre de la jeune Ophélie et la découverte du véhicule SUV, le sport utilitaire, avec deux cadavres à l'intérieur, qui sont toujours non identifiés. Ça va être un travail de criminalistique là, qui va se faire à Montréal, qui est en train de se faire. Également tenter de retrouver un numéro de série pour identifier le propriétaire du véhicule. C'est peut-être déjà fait au moment où on se parle, mais il y a quelques minutes, c'est pas fait.
Comment ils peuvent faire un lien entre la jeune Ophélie qu'on retrouve dans un fossé après... Ce que je comprends, c'est que elle et sa copine de 21 ans, elle a 19 ans, ils ont veillé avec deux types qui ont été arrêtés au cours des dernières heures et ils sont partis en voiture. Puis là... Il y en a une qui a compris qu'il y avait un danger, a sauté en bas du char, la voiture s'est arrêtée, les deux types se sont mis à tirer sur celle qui s'enfuyait, mais ont aussi abattu dans le dos la petite Ophélie. C'est ça?
C'est pas mal, vous avez pas mal, c'est pas mal un bon résumé de l'histoire, c'est un peu comme ça, mais effectivement, il y a une séquestration. À un moment donné, leur présence dans la voiture n'est plus volontaire, ils sont retenus, elles sont retenues là contre leur gré, et effectivement, une a réussi à fuir, qui est devenue un témoin principal et pour la sûreté, et l'autre, malheureusement, est décédée.
Mais comment on fait le lien avec l'autre véhicule qui est redécouvert brûlé à des kilomètres de là?
Ouais, ben je ne peux pas aller dans ces détails-là, Madame Segal. À ce stade-ci, je ne peux pas aller dans les détails. La raison pour laquelle les enquêteurs font le lien, mais je vous dis qu'ils ont de fortes raisons de croire. Encore une fois, on va attendre aux identifications positives des deux personnes qui sont décédées, et c'est ça qui va permettre de valider l'hypothèse des enquêteurs. Mais il y a des choses qui seront retrouvées entre guillemets sur les deux scènes de crime qui permettent de dire qu'il est fort probable que les deux crimes, les trois meurtres soient reliés.
Mais est-ce que c'est une histoire? On a parlé de prostitution, on a parlé de drogue, on a parlé de toutes sortes de choses. C'est quoi qu'il y a derrière ça?
Bon, écoutez, il semble que Ophélie aurait eu, au cours des derniers mois, dernières semaines, aurait fréquenté des gens qui, au dire de ses copines, n'étaient pas tout à fait recommandables. Mais on ne me parle pas, moi, de prostitution.
Okay.
Et on ne dit pas que les deux tueurs ne sont pas reliés à ça, là. Mais on ne me parle pas de ça dans le cas d'Ophélie. Mais seulement, la raison pour laquelle elle a, à un moment donné, la rencontre avec ces deux personnes-là, les deux tueurs, là, est devenue non volontaire, si on veut. Les deux jeunes filles, leur situation est passée de nous sommes là présentement de façon volontaire à nous sommes séquestrés. C'est que les gens ont commencé à les interroger parce qu'un des deux aurait été victime d'un important vol d'argent. Et il avait, lui, pour des raisons qui lui appartiennent, il pensait que ces deux jeunes filles-là pourraient l'aider à identifier celui qui l'avait volé. Alors, à un moment donné, lorsque la rencontre amicale, si on veut, est passée à un interrogatoire, c'est là que les choses ont mal tourné et que, malheureusement, Ophélie a été assassinée.
De balles dans le dos? C'est-tu bien ça que j'ai vu?
Je ne confirmerai pas ça. Okay. Ce sont des détails. Il y a des choses dans une enquête criminelle pour éviter ce qui vient de se passer avec Betty. Là.
Okay.
Il y a des choses, Mme Segal, qui doivent demeurer dans un cercle très restreint de policiers.
Mais ce qu'on sait, c'est que les deux qui ont été arrêtés dans la région de Montréal, là, séparément, René Kegel et Francis Martel, eux autres, semble-t-il qu'il y avait des dossiers dans le domaine des stupéfiants et de la prostitution.
C'est ça, c'est fort possible. Et effectivement, et là, c'est
fort possible que ce soit pas eux qui se prostituaient, mais qui étaient plutôt proxénètes. Hein?
Voilà, c'est ça. Mais il reste que ça devient accessoire dans ce cas-ci. Mais effectivement, Kegel a été arrêté par des patrouilleurs. Hier, il était dans une voiture qui a été interceptée par des patrouilleurs pour une raison tout autre. Et les patrouilleurs de Repentigny ont reconnu Kegel, qui faisait l'objet d'un avis de recherche émis, vous le savez, en fin de journée hier. Alors, ils ont procédé à son arrestation. Et quant à Martel, lui, il a été localisé par les enquêteurs de la SQ, par enquête, il a été localisé dans une maison du territoire de la ville de Montréal. Et ce sont les policiers du SPVM, le groupe tactique d'intervention du SPVM, qui ont assisté les enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ pour procéder à son arrestation.
Mais je respecte et même j'admire votre intégrité. Là, quand vient le temps de protéger une enquête, ça devrait toujours être comme ça. Mais à la lumière de ce que vous savez et sans faire de grandes révélations, pensez-vous qu'on va avoir une résolution de ce crime, c'est-à-dire qu'on va comprendre ce qui est arrivé ultimement?
Ah oui, tout à fait, monsieur Lavoie, tout à fait. Écoutez, la preuve, vous savez, j'en ai fait au-dessus d'une centaine d'enquêtes d'homicide au crime contre la personne. J'en ai dirigé au-dessus d'une centaine. Alors, les tribunaux sont là pour, justement, la preuve accumulée par les policiers, elle sera ultimement présentée par les policiers, par un procureur de la Couronne devant les tribunaux. Ce qu'on entend aujourd'hui, là, c'est beaucoup de choses qui sortent de gens qui sont proches de l'enquête, des civils qui sont proches de l'enquête, qui rencontrent les enquêteurs, et il arrive que des enquêteurs, je vais vous le dire, il arrive que des enquêteurs donnent autant d'informations à la personne qu'ils rencontrent que celle-ci leur en donne. Alors,
okay.
Malheureusement, ça peut arriver, ça.
OK, alors, ben... On va espérer qu'on ait le fin mot de l'histoire, mais je trouve ça terrible. Je regardais la page Facebook de la petite Ophélie, là. Elle présente des photos de son chien. Tu sais, ça
a l'air d'une jeune fille tout droit sortie de l'adolescence.
Ben, écoutez, on a rencontré, vous avez vu ce matin, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'entrevue des trois copines d'Ophélie ce matin à LCN, et on voit là de quel milieu, on parle pas d'un milieu très défavorisé, là. On parle de jeunes filles bien articulées. Alors, on parle de jeunes filles bien articulées. Alors, c'est très dommage pour, faut penser aux parents d'Ophélie, familles, et aux parents des deux autres victimes, les familles, voilà. C'est pour ça que les enquêteurs travaillent, c'est pour les survivants.
Merci beaucoup, Jean-François Brochu.
Merci, j'espère qu'on va pouvoir vous en reparler quand on va en connaître davantage.
Alors, au cours des prochaines semaines, c'est fort possible.
Au revoir.
Merci, au revoir.
C'est, ça fait frissonner, hein. Puis,
une jeune fille de 19 ans, d'une famille bien, d'après ce qu'il nous décrivait.
Rencontrer les mauvaises personnes au mauvais endroit, puis pouf.
Oui. Mais ces écœurants qui ont tiré dans le dos de la fille, là. Ouais. Écoute, si j'étais le père, là, c'est pas mêlant, là, c'est que je le sais qu'on n'a pas le droit de se faire justice à soi-même. Tirer dans le dos d'une jeune fille de 19 ans, quel maniaque, quel capoté, je sais pas quoi dire, ça m'enrage.
Tu sais, c'est un peu, on va voir si ces gars-là étaient effectivement reliés à une histoire de proxénétisme. Là, tu vois ce que Jean-François Brochu a l'air de nous dire, c'est qu'il y a une somme d'argent qui disparaît, puis là, ils se demandent si quelqu'un peut les aider à retrouver leur argent. Là.
Ouais.
Alors, ces gars-là étaient reliés au monde des proxénètes, c'est sûr que pour eux autres, les filles, c'est de la viande.
Ben oui, ben peut-être que
c'est pas du monde, c'est
peut-être est-ce des filles qui avaient résisté. On le sait pas, là, on spécule, puis c'est pas beau de te spéculer.
C'est clair qu'ils ont résisté. Il y en a une qui a sauté en bas du champ.
Je comprends, mais est-ce que c'était ça qui était en train de se dérouler? Il y a une témoin qui est capable d'en faire part.
Moi, j'ai l'impression que pour cette séquence-là, c'est quand même assez clair. La fille saute en bas du char, le char s'arrête, Ophélie veut la suivre, il la tire dans le dos, puis ils essayent d'atteindre celle qui se sauve, et heureusement, elle y est arrivée.
Wow! C'était wow!
C'est épouvantable.
Familles, si elles nous entendent, sachent que...
Puis toutes les mères et tous les pères qui voient leur enfant devenir adulte, tu sais, 18, 19 ans, ils savent qu'on continue à être inquiets. Parce qu'ils sont adultes, mais ils n'ont pas toujours toutes les défenses.
Ben, 19 ans, là, ils se sont de très, très jeunes adultes. Là. Ils sortent de l'adolescence. Là. Alors, c'est encore des gens qui ont besoin d'adultes plus âgés. Leurs parents, quoi. Ils ont besoin de leurs parents. Les familles, c'est pas rien.
Oui. Puis des fois, tu peux rien y faire. Tu fais de ton mieux, puis tu peux rien y faire. Ils vont tomber au mauvais endroit, au mauvais moment.
Et en effet.
Avec les mauvaises personnes, évidemment. Il est 11h34 minutes.